7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, quand le verre trompe les consommateurs. Récemment, au Sri Lanka, 9 plantations de thé équitable ont été accusées de violer le droit du travail. Et Claire Fache, d'ailleurs, en a parlé dans sa chronique des matières premières sur RFI. Ce commerce équitable garantit une meilleure rémunération des producteurs. Ça peut être du cacao, ça peut être du café aussi. Et on utilise cet argument pour vendre aussi ces produits plus chers, forcément. Et par ailleurs, des marques alimentaires affichent une préoccupation environnementale pour séduire les consommateurs. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les travailleurs. Quand le marketing utilise l'éthique pour vendre et pour changer l'image des produits, alors comment décrypter, comment s'informer? Les voisins, dites-nous ce que vous pensez de ce commerce équitable. Est-ce que vous vous sentez parfois trompé par l'illusion verte? On attend vos témoignages et vos questions au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser des messages écrits, audio et nous appeler surtout en direct. Je vous présente entre nos invités. Valérie Laramé de Tannenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié Agir pour le climat entre éthique et profit chez Buchet-Chastel. Vous êtes également rédacteur en chef du journal de l'environnement. Christian Jacquiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Vous avez publié un livre sur les coulisses du commerce équitable chez Mille et Une Nuits. Et Florence Benoît Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez le marketing responsable à l'université Paris Dauphine. Vous avez publié De la publicité verte au greenwashing. 50 nuances de vert entre vice et vertu. C'était dans un vaste ouvrage sur l'état des entreprises à la découverte. Et puis en fin d'émission, on aura comme chaque vendredi la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, les enfants sont-ils bercés de la même manière partout dans le monde? Ça sera le sujet de sa chronique aujourd'hui. 7 milliards de voisins, voilà, vous êtes peut-être producteur de matières premières alimentaires ou vous êtes tout simplement consommateur et un peu perdu dans votre désir de mieux consommer. Appelez-nous pour en discuter avec nos invités. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Est-ce qu'on peut déjà définir ces mots commerce équitable, greenwashing? Qui commence à définir ce qu'est le greenwashing? Florence Benoît Moreau?
Oui, alors le greenwashing, en fait, c'est le fait d'induire en erreur, si on veut, de tromper le consommateur quant à des bénéfices environnementaux de produits ou de services. Alors, il s'agit... À l'origine, il y avait parfois des publicités, on va dire, qui étaient, dont on disait qu'elles greenwashaient les produits. Et puis aujourd'hui, on a une acception un peu plus large. Ça peut être aussi des packaging, donc les emballages en fait, des produits qui vont prendre des couleurs vertes ou qui vont en fait, potentiellement induire, tromper le consommateur de manière plus ou moins, on va dire, volontaire ou comprise de la part de l'entreprise. Parce qu'après tout, n'a-t-on pas le droit d'utiliser du verre sur du packaging? Mais malgré tout, ça va créer, en fait, et c'est ce qu'on a montré, nous, dans des travaux de recherche, de l'image verte, en fait.
Mais ça veut dire que c'est toujours négatif, le greenwashing, l'éco-blanchiment? Une entreprise réellement vertueuse qui vendrait un produit de bonne qualité, bon pour l'environnement, bon pour les employés, etc., on pourrait quand même la qualifier de greenwashing?
Alors c'est compliqué parce qu'il y a quand même d'une part un peu des degrés. En général, c'est rarement un mensonge radical. C'est plutôt parce qu'on a masqué un peu la réalité ou on a induit un peu quelque chose de plus fort peut-être que ça n'est réellement, où on oublie de préciser en fait un autre travers du produit. Donc forcément, c'est assez complexe, donc je pense qu'il y a des degrés dans ce domaine-là. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on peut dire que là où c'est mauvais, c'est que finalement pour des entreprises qui font peut-être un peu plus, qui ont un effort plus conséquent, alors un produit n'est jamais totalement vertueux par définition, il a forcément un impact. Hein. Mais pour ceux qui le sont plus, bah, ils vont être finalement un petit peu mis, cette information va être noyée dans la masse avec finalement une perte des vrais repères. Et c'est finalement décourageant aussi pour les entreprises qui veulent faire bien, parce que finalement, si les autres, simplement avec un effet d'affichage, peut-être un label environnemental, mais qu'elles auront autoproclamé, qu'elles auront finalement dessiné sur leurs produits, elles vont finalement induire cette image et on n'a plus cette perception de degré et de différenciation entre des produits qui feraient peut-être un peu plus ce travail écologique que d'autres.
Vous pouvez nous donner des exemples de produits sans citer de marque?
Alors, il y avait un moment une marque automobile française qui utilisait un label, mais qui en fait n'est pas un label vérifié. C'est un label purement marketé, c'est-à-dire il a été dessiné, on va dire, par l'agence de publicité. Alors, derrière, il y a une promesse quand même, hein, il y a une promesse, effectivement, mais qui n'engage vraiment que la marque, en fait. Donc, il n'y a pas de vérification. En l'occurrence, c'était une promesse sur une réduction d'émissions carbone du véhicule, qui est peut-être tout à fait valide, mais en attendant, on utilise un label. Les labels sont souvent assez efficaces, sont assez crédibles. Alors, ils perdent le consommateur, mais ils sont plutôt crédibles. Or, là, il ne s'agit pas d'un label audité par un organisme ou proposé par un organisme externe de certification, mais vraiment un outil presque un peu publicitaire, un dessin publicitaire, un logo.
Là, on parle de produits qui sont directement dans les rayons des supermarchés. Pour la voiture, ce n'est pas le cas, mais je veux dire qu'ils sont directement en bout de chaîne pour le consommateur. C'est au consommateur de faire le bon choix, de se poser des questions. Mais est-ce qu'il y a une acceptation plus large du greenwashing, Valérie Laramée de Tannenberg?
Je crois qu'on l'a vu par exemple avec un mécanisme onusien qui s'appelle le mécanisme de développement propre, qui permettait en gros aux pays du Nord ou aux entreprises du Nord, en finançant des projets dans les pays du Sud, d'obtenir des permis d'émission de gaz à effet de serre. Et il y a eu un détournement complet, notamment par la Chine, de ce mécanisme, puisque la Chine a fait financer une bonne partie de son industrie de production d'hydrofluorocarbures, qui sont des gaz qui mitent la couche d'ozone assez sévèrement, et qui peuvent être aussi des gaz à effet de serre extrêmement puissants, en utilisant ces mécanismes. Donc des entreprises du Nord se sont donné bonne conscience en sachant pertinemment que finalement la finalité chinoise était perverse en quelque sorte, et les Chinois ont pu collecter une bonne partie de l'argent généré par ce mécanisme pour financer une industrie polluante.
Est-ce qu'il y a par exemple aux États-Unis aussi des multinationales qui communiquent notamment via la presse pour toucher le consommateur avec une attitude vertueuse, alors que dans la réalité ça n'est pas tout à fait le cas?
Oui, il y a beaucoup d'affaires qui ont trait aux produits organiques, comme on dit aux États-Unis, donc les produits bio chez nous, qui sont là aussi pas ou peu certifiés dans des conditions qui sont très discutables, puisqu'on n'a pas les mêmes références aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Et donc le produit bio consommé aux États-Unis serait sans doute relégué dans les rayons des produits non bio en Europe. Donc là, il y a un petit peu une informations du consommateur.
Et qu'est-ce qu'on appelle exactement commerce équitable? C'est quoi la définition, Christian Jacquier?
Alors, ce que je veux dire, avant tout, c'est qu'on parle de greenwashing et on parle d'écologie, mais je crois que ça s'applique aussi au lien au social, en fait, véritablement. Quand on parle de commerce équitable, l'idée, c'est que la mondialisation a fait que les pays du Nord consommaient beaucoup de produits du Sud et oubliaient tout simplement de rémunérer correctement les producteurs du Sud. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui produisaient pour nous des fèves de cacao, du café, etc. Et puis qui, quelque part, n'avaient pas d'argent pour nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, etc. Ne pouvaient pas vivre, en fait. Et des gens du Nord se sont dit, c'est pas normal, il y a une belle promesse derrière le commerce équitable, on s'est dit on doit les rémunérer correctement. Là, tout le monde le comprend, mais simplement, on s'est trompé de cible, j'allais dire, puisque dans le concept du commerce équitable, qui veut qu'on rémunère davantage petit producteur au départ, en fait, on est parti d'un principe, c'est qu'on a voulu généraliser et répandre de façon massive dans les rayons du supermarché les produits du commerce équitable. Et du coup, on s'est tourné vers des gros producteurs et pas des petits, puisqu'on a besoin d'alimenter des masses de consommation.
Victime de son succès, finalement. Victime parce qu'il y avait de plus en plus de consommateurs qui avaient envie d'acheter des produits équitables.
Mais aussi parce que c'était mal défini et mal cerné, parce que l'idée, c'était au contraire de permettre à une multitude et de plus en plus de producteurs de vivre davantage. Simplement, les intermédiaires, la grande distribution et les géants de l'agroalimentaire se sont dit on veut du volume, et donc du volume, ça vient des gros producteurs. Et à partir de là, on a payé plus généreusement, j'allais dire, des producteurs, donc assez gros, qui tout simplement, eux, ont oublié de rémunérer correctement les gens qui travaillaient sur les sites de production. Autrement dit, les travailleurs saisonniers, journaliers, les paysans, eh bien, ne sont pas rémunérés davantage dans ce commerce équitable-là.
Ça veut dire que sur un paquet de café ou au dos d'une tablette de chocolat, quand vous avez la photo de la famille d'agriculteurs, que vous voyez le village, que vous voyez l'école qui a été construite, et qu'on dit, vous voyez, ce cacao-là, il a été récolté dans ce village, dans cette région, pour profiter à ces agriculteurs-là, Ça veut dire quoi?
Alors, ça
la
veut dire
photo,
tout
elle est...
et son contraire.
C'est tout bullshit c'est...
Non, ça veut dire tout et son contraire, ça dépend qui intervient. Il ne faut pas jeter tout le commerce équitable à la poubelle, parce qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment impliqués, qui essayent de vraiment pratiquer un commerce équitable. Mais il y a aussi des gens qui se sont emparés de ce commerce équitable pour finalement faire du business. Et c'est toute la faille, effectivement, du modèle et du système. Maintenant, encore une fois, on a un commerce équitable qui respecte les producteurs, mais de toute façon, il y a une faille quand même dans le système. Puisque dans le commerce équitable tel qu'on pratique aujourd'hui, on interpelle le consommateur en disant « Êtes-vous prêt, vous ?» Êtes-vous prête à payer un paquet de café plus cher pour qu'il soit équitable? Autrement dit, si vous payez plus cher à la caisse du supermarché, vous aurez peut-être l'image, en tout cas, que le petit producteur sera payé davantage.
Et c'est vrai, mais il est vendu plus cher qu'un paquet de café.
Il est vendu plus cher, sauf que qui dit que c'est le petit producteur qui va toucher ça? Rien ne le permet. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que la faille, au départ, c'était de dire les géants de l'agroalimentaire, les géants de la grande distribution gagnent beaucoup trop d'argent sur les matières premières, il faut qu'il y ait un commerce équitable, autrement dit, une plus juste répartition du prix. Là, c'est le contraire. On dit aux consommateurs, êtes-vous prêt à payer? Si vous n'êtes pas prêt à payer, on ne demande aucun effort aux distributeurs, à la grande distribution, aucun effort aux géants de l'agroalimentaire. Et donc, on ne change pas le modèle. C'est quelque chose qui change le modèle à la marge, j'allais dire, mais finalement, ça change
mais
pas.
Mais ça veut dire que finalement, aujourd'hui, on n'est plus dans un modèle d'une addition de petits planteurs, de petites familles, de petites communautés.
Surtout pas.
Mais plutôt de gros planteurs.
De volume. Et d'image. Et d'image surtout parce qu'on veut que les consommateurs aient une bonne conscience, on continue à consommer du café, du cacao, etc., sans se soucier véritablement. Et ce que l'on voit, c'est que dans les pays du Sud, finalement, ça ne change rien pour les producteurs, mais strictement rien, et pas davantage pour leurs salariés.
L'affaire, il y a quelque temps, du Sri Lanka, où, avec l'enquête de la Fondation Thomson Reuters, qui a révélé à partir des consultations des fiches de paie et des témoignages de 17 ouvriers que leur salaire était retenu pour des remboursements de dettes jusqu'à 3/4 du salaire, qu'ils avaient aussi des amendes pour retard, pour cueillette insuffisante, donc pour rendement insuffisant. Est-ce que ce type d'affaires, c'est assez répandu finalement? C'est-à-dire que le label, lui, verse la prime, mais n'est pas au courant des conditions de travail réelles, des conditions sociales dans lesquelles sont récoltés ces produits et
bien
ces
sûr,
matières premières.
Bien sûr, puisque le cahier des charges ne le prévoit pas. Il prévoit de donner un peu plus au producteur qui, lui, n'est pas défini. Quelle taille a-t-il? Quel est ça? On n'en sait rien, on s'en moque, c'est pas la question. On lui donnera un peu davantage. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la bio. C'est le même problème, en fait, monsieur en parlait tout à l'heure. En bio, on a effectivement. À l'origine, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect, bien sûr, écologique, donc pas d'intrants chimiques, pas de pesticides, pas d'insecticides, etc. Puis tout un volet social aussi, qui voulait qu'on maintienne les paysans dans la ruralité, que les gens puissent vivre dans leur village. Aujourd'hui, la bio est entrée dans les grandes surfaces. On veut une bio, effectivement, sans intrants chimiques, mais on se moque bien de l'aspect social, véritablement. On arrive au paradoxe, où on a parlé tout à l'heure des États-Unis, mais en Espagne, mais aussi en France, on trouve des travailleurs immigrés clandestins qui dorment sous la bâche et qui sont employés pour cueillir des fruits et des légumes bio qui sont dans nos supermarchés, effectivement. On a aussi un autre paradoxe.
Mais c'est le bio ne garantit pas, a priori, une équité et un aspect social. C'est quand même pas la même chose.
Mais
juste une dernière question sur le commerce équitable, parce que ça intéresse forcément nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans des pays où il y a des filières productrices de matières premières qui sont revendues à des filières de commerce équitable. Comment travaillent les organismes de certification qui vont dire, oui, là, chez ce planteur-là, effectivement, les primes sont bien versées, ils sont rémunérés à une plus juste valeur, etc. etc.
Ah ben, c'est vrai qu'on passe des accords, donc on rémunérera davantage, par exemple, la tonne de café, le kilo de café. Ça, c'est une réalité. On peut pratiquement le vérifier, on est pratiquement sûr. Après, où cet argent va-t-il? Il arrive souvent dans une coopérative ou chez un gros producteur. Et après, il n'y a pas d'exigence. Que devient cet argent? Eh bien, est-ce qu'il va au plus gros producteur? Si on prend l'exemple de la banane, par exemple, il y a très peu de petits producteurs de bananes. C'est souvent des grandes bananeries. Eh bien, c'est le richissime propriétaire de terre. De terre qui produit des bananes, qui touche la prime, et il va la restituer à ses salariés, aux ouvriers agricoles ou pas, et le plus souvent pas, parce qu'il va garder cette prime. Et là, on est bien dans le commerce équitable.
Ça veut dire que les organismes de certification ne sont pas capables d'imposer, ou les labels ne sont pas capables d'imposer, le versement des primes directement aux employés?
Ils ne sont pas capables, et surtout, ils ne l'exigent pas du tout, parce que s'ils l'exigeaient, ça remettrait en cause le modèle, bien évidemment. Donc il n'est pas question de ça. Encore une fois, et là, on est en plein dans le sujet, on nous vend de l'image, on nous vend du comportement sain, éthique, et tout ce que l'on veut. Je crois que pour répondre à votre question en trois mots, si le consommateur veut avoir une consommation responsable, il faut un triptyque. C'est le commerce équitable, bien sûr, un commerce éthique et bien sûr des produits bio, écologiques, etc. Si on n'a pas ces trois arguments-là, on n'est pas vraiment dans une consommation responsable.
Sur l'aspect, sur le commerce équitable, Florence Benoît Moreau, le consommateur est-il réellement trompé par rapport, on parlait de l'emballage là, qui montre des photos de petits planteurs?
Oui, dans une certaine mesure, parce qu'effectivement, il n'a pas accès à... Finalement, ces signaux, ils sont un peu réducteurs, en fait. Ces signaux qu'on travaille un peu en marketing, ils vont être réducteurs au sens où la complexité, finalement, de toute la chaîne de valeur, etc., est difficilement explicite. Donc, et c'est la même chose, finalement, pour les arguments écologiques, c'est-à-dire que, finalement, c'est très complexe de comprendre tous les impacts. Hein. On le voit dès qu'on s'intéresse un peu à un sujet. Regardez, là, on a beaucoup parlé de la voiture électrique. On sait qu'il n'y a pas d'impact en matière d'émissions pendant son utilisation, mais il y a évidemment des impacts importants sur la production de l'automobile. Donc, derrière, c'est beaucoup d'hypothèses. Et en fait, si on les résume en un argument publicitaire ou dans une sorte de label, entre guillemets, un peu autoproclamé, en fait, on réduit cette réalité. Après, on est un peu obligé aussi de la réduire parce que, de toute façon, elle est complexe, donc il faut l'exprimer de manière simple. C'est là tout le degré, en fait, toute l'éthique. L'éthique, elle doit aussi être, finalement, là, chez le marketeur et chez celui qui conçoit les produits pour voir dans quel degré, voilà, évidemment, il simplifie. Mais il simplifie tellement à outrance qu'il finit par être dans presque le mensonge par omission.
Ouais. Sur le commerce équitable, Valérie Laramée de Tannenberg, l'éthique à l'origine et puis ensuite les nécessités d'un modèle économique sont incompatibles ?
Non, ce n'est pas incompatible, mais on triche souvent beaucoup. Pour revenir à l'exemple de l'automobile, on a vu une très grande marque commençant par un V et finissant par un W, pour reprendre son acronyme, qui a longtemps, des années durant, proclamé que ses voitures étaient les plus propres du marché. Et on a vu ce que ça donnait, je veux dire, des millions de voitures équipées d'un logiciel truqueur qui truquait les résultats des tests d'émissions. Et au final, une entreprise qui est condamnée à 28 milliards d'euros d'amende. Et les actions judiciaires ne sont pas terminées.
Preuve que les temps ont quand même aussi beaucoup changé dans l'information du consommateur, dans la transparence, dans la médiatisation de ces affaires.
Alors là, ce n'est pas le consommateur qui a révélé l'histoire. C'est une association américaine financée par des philanthropes américains qui a déposé plainte aux États-Unis. Donc c'est la raison.
Néanmoins, le consommateur est informé.
Le consommateur est informé au dernier moment, c'est-à-dire au moment où il peut porter plainte, où il peut mener des actions de groupe, mais durant toute la partie industrielle, rien du tout.
Cela dit, non, si je peux me permettre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une émergence de contre-pouvoirs, enfin, qui existait avant, en fait, journalistes, associations, ONG, etc., mais qui aujourd'hui ont plus la parole, notamment par les réseaux sociaux, et qui du coup, quand même, exercent un contrôle assez important, parce qu'une marque, sa réputation est évidemment un enjeu extrêmement important. Elle pilote sa réputation. Aujourd'hui, on parle d'e-réputation sur Internet. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose qui est important. Et avant d'aller exposer son image de manière proactive sur des réseaux sociaux, à des posts, des articles, etc., maintenant, l'entreprise fait quand même très attention à ses prises de parole. Bon, mais la preuve, c'est que là, ça a quand même un peu échappé. Mais c'est vrai que cette montée des contre-pouvoirs est tout de même à signaler et sans doute aussi bonne chose.
Oui, en même temps, avec le retour de bâton que l'on sait, finalement, paradoxalement, les consommateurs sont de plus en plus, et les consommateurs et les citoyens sont de plus en plus soucieux de l'éthique dans leurs achats. Et en même temps, l'éthique est en train de devenir un formidable argument de vente. Acheter nos produits, nous sommes responsables. Mais alors, ensuite, comment démêler le vrai du faux? On a l'impression, vu de loin, que c'est compliqué. Appelez-nous, les voisins, les voisines, si vous êtes producteur de matières premières alimentaires ou si vous êtes tout simplement consommateur citoyen, appelez-nous pour poser vos questions ou témoigner. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards des voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
On accueille un voisin qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour Dotou.
Oui, bonjour Emmanuel, comment allez-vous ?
Très bien, vous êtes le bienvenu. Vous souhaitez apporter une contribution par rapport à une réalité chez vous au Bénin, de ce que vous pouvez constater. Donc, dans ce qu'on appelle un peu le marketing vert aujourd'hui, cette façon qu'ont les sociétés de publier un discours très positif sur leurs activités.
Bien sûr. Et là, je voudrais donner l'exemple de la plus grande société de production de boissons au Bénin, qui, dans sa charte graphique, montre clairement la couleur verte. Et ça porte à croire que les procédures de production sont respectueuses de l'environnement. Mais quand on regarde de plus près, c'est pas ce qu'on voit, quoi. Je vous écoute.
Oui, oui, on vous écoute d'auto attentivement.
Voilà, et alors que il fait partie d'un des plus grands pollueurs de l'environnement, surtout de l'air à Cotonou, Et avec cette petite unité de production également répartie un peu partout dans le pays, ils polluent également les eaux en déversant des eaux usées qui ne sont pas forcément toujours bien traitées avant d'être déversées dans la nature. Donc ça nuance un peu avec la couleur verte qu'il essaie de promouvoir à travers sa charte graphique, quoi.
On ne peut pas non plus appeler ça une publicité mensongère.
Bien sûr, on peut pas appeler ça parce que là, ils n'ont pas pris des logos qui sous-tendent qu'ils respectent l'environnement. Mais quand on va sur le site, ils ont écrit une politique de respect de l'environnement et d'équité qui stipule, par exemple, qu'ils doivent tout faire pour réduire les émissions, pour pouvoir respecter l'environnement en évitant de déverser les eaux usées. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qu'on observe, quoi.
Ouais. Et du côté des consommateurs, alors, est-ce qu'il y a des questions ou finalement on aime bien le nouvel emballage de cette boisson ?
Je crois que bon, sur ce point-là, ils ont gagné au niveau du marketing parce que les consommateurs ont encore beaucoup d'engouement pour la consommation des produits et beaucoup ne cherchent pas à voir ce qu'il y a derrière le décor et consomment seulement. Et je peux dire également que ça se justifie par le fait qu'au Bénin, bon, on n'a pas encore beaucoup cette fibre-là écologique, on ne demande pas beaucoup de choses, on ne veut pas comprendre ce qui se passe derrière. On est là juste pour consommer. C'est quelques rares personnes qui essaient d'aller en profondeur pour voir ce qui se passe.
Et puis il y a aussi une logique de besoin et de prix hein, quand on est consommateur. Merci beaucoup Dotou de nous avoir appelé. Comment vous réagissez Florence Benoît Moreau là-dessus, sur cet exemple-là, où à la fois il y a une communication institutionnelle de l'entreprise via le site internet. On a l'impression qu'aujourd'hui tous les producteurs de la planète ont un discours sur l'environnement, quoi qu'ils fabriquent.
Oui, alors en plus, je trouve que l'exemple d'Otou est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est sorti au tout début, les définitions du greenwashing, c'était beaucoup autour du message, en fait. On proclamait quelque chose, mais c'était de l'ordre du message. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des signaux un peu d'exécution. Et nous, c'est un article de recherche qu'on a fait paraître avec une de mes collègues qui était ce qu'on appelle le greenwashing, en fait, d'exécution. C'est-à-dire, c'est l'exécution publicitaire, le choix des couleurs, le choix de logo, le fait d'avoir un fond, par exemple, dans la nature, présenter un 4x4 dans un fond de désert, de forêt, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vraiment testé expérimentalement. On s'amusait à faire deux versions, on va dire, hein, je simplifie, de publicité. Une avec le fond vert, une sans le fond vert, mais toute chose égale par ailleurs. Et vous montrer qu'en fait, ça suffit à créer de l'image verte et une image écologique additionnelle. Et que pour compenser, alors évidemment, il y a des mécanismes. On a testé, nous aussi, des petites affichettes avec, par exemple, les émissions carbone, en l'occurrence, puisque c'était des voitures. Et en fait, ces signaux-là ne sont pas forcément lu ou compris, en fait. Quand on met un affichage, un étiquetage, c'est très complexe, parce qu'évidemment, on pourrait se dire que ça va corriger complètement. Hein. Ça peut être un mode de régulation, c'est de fournir cette information. Et en fait, soit elle n'est pas vue, il y avait une partie, en fait, qui ne regardait pas, soit qu'il la regardait plus en termes de signal. Ah ben, si l'annonceur, hein, donc si l'entreprise, elle affiche ses émissions, c'est qu'elles sont bonnes. Pourquoi ? Parce que pour décrypter le chiffre, il faut avoir une expertise. Donc, connaître, en gros, quelle est la limite proposée par la communauté, enfin, imposé ou recommandé par la communauté européenne. Donc, après, il faut inventer des étiquettes genre feu vert, feu rouge.
C'est ça, mais on peut encore raconter un peu n'importe quoi à nous tous, à nous,
parce que
consommateurs
c'est complexe.
Que nous
après,
sommes.
J'ai envie de dire aussi, c'est un petit peu aussi de notre fait, Dotou a raison, c'est-à-dire aussi nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on creuse vraiment, est-ce qu'on essaie de développer cette expertise? C'est vrai qu'on peut un peu... Aujourd'hui, l'info est quand même relativement disponible. Hein. Bon, après, on ne fait pas forcément cet effort sur tous les produits, ça implique une forme d'expertise et puis du temps. Et c'est vrai qu'on a une petite part de responsabilité quand même aussi là-dessus. C'est aussi un petit peu à nous de se former en tant que consommateurs.
Et ce message aux consommateurs, c'est toujours le prolongement d'une communication plus institutionnelle des entreprises sur les sites et d'une communication, je veux dire, moins grand public d'une certaine manière. On pourrait dire ça, Valérie Laramée de Tannenberg ?
Je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que le greenwashing n'est pas seulement l'apanage des entreprises, mais aussi des États. Il y a dans la communauté climatique un champion du climat aujourd'hui, qui est paradoxalement la Chine. Les associations louent les efforts chinois. La Chine fait croire qu'elle prend des engagements très importants en matière de réduction d'émissions. Or, ce sont des engagements en matière de réduction d'intensité. d'émissions par point de PIB. Ça veut dire que, en gros, dans les 30 prochaines années, la Chine va pouvoir émettre 50% d'émissions en plus, en toute bonne conscience. Et parallèlement, elle finance, notamment en Afrique, beaucoup de centrales au charbon très polluantes, beaucoup d'infrastructures dont les pays n'ont pas forcément l'usage, et surtout à des conditions économiques qui sont totalement déraisonnables. Donc on a un double discours de la part de la Chine. C'est un petit peu vrai aussi pour l'Inde, qui est le prochain grand émetteur mondial, qui dit qu'il s'équipe beaucoup en énergie renouvelable et qui construit encore beaucoup de centrales au charbon.
Je voudrais vous permettre d'écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle L'illusion verte, qui est sorti il y a quelques semaines en Europe, qui se penche sur le greenwashing, ou donc l'éco-blanchiment en langue française. Ça peut être de l'huile de palme labellisée bio en Indonésie, des voitures électriques alimentées par des mines de charbon. Et si, à défaut de sauver le monde, ces produits faisaient seulement le jeu des multinationales, c'est la question que pose justement le réalisateur autrichien Werner Boot, que Charlie Dupio, notre reporter, a rencontré. Dans son documentaire, on peut voir une publicité télévisée de l'une des plus grandes sociétés énergétiques d'Europe, RWE, basée à Essen, en Allemagne. Une publicité qui en dit long.
I love the mountains, I love the rolling hills, I love the flowers, I love the daffodils, I love the fireside when the lights are low.
The advertising of RWE is,
Sur cette publicité, vous voyez un géant qui marche à travers le paysage et qui répare tout sur son passage, dans l'idée de ce que ferait REW, cette entreprise énergétique. Face au paysage détruit, le géant sème de la pelouse verte et dépose ses superbes éoliennes sur l'herbe.
And we have a wonderful planet.
Il souffle et hop, grâce à lui, notre planète est à nouveau merveilleuse. Cette compagnie est l'une des plus grandes émettrices de CO2 en Europe.
Donc là, on est au cœur de l'illusion verte.
Oui, alors ce qui est amusant, c'est que normalement, on n'a pas le droit de tourner des images dans leur centrale. J'ai dû demander l'autorisation. Je voulais montrer au public que cette entreprise produit quelques éoliennes, mais surtout détruit une immense partie du paysage pour le charbon.
In the 1970s, people realized worldwide that we have to take care of the environment.
Dans les années 70, partout dans le monde, les gens ont réalisé qu'il fallait prendre soin de notre planète. Et c'est là que le greenwashing, ou l'éco-blanchiment, a démarré. Les compagnies pétrolières ont été les premières à montrer des images d'ours qui marchent dans la forêt, pour faire passer le message qu'elle faisait attention à l'environnement au lieu de vraiment changer de façon de produire. Ça fait presque 50 ans que nous entendons ces mensonges verts et que nous vivons dans l'illusion qu'on peut continuer comme ça. Et je pense que maintenant l'heure est venue de dire « Allez, on arrête les mensonges verts, ça ne fonctionne plus ». Les multinationales continuent de détruire la nature à travers le monde de manière systématique.
Pas de pot d'échappement qui fume, pas de bruit. Mais tu ne vois pas non plus la mine de lithium ou de charbon.
Parce que ça se passe loin.
C'est ça. Ces avancées dans le bon sens sont censées nous garder de bonne humeur. De bonne humeur pour consommer et pour croire qu'un géo trouve tout écolo nous sauvera un jour avec sa technologie magique. C'est ça la grande illusion.
Sur cette illusion verte, vous menez l'enquête aux côtés d'une journaliste, Catherine Hartmann, qui a beaucoup enquêté elle-même sur le greenwashing. Votre objectif est aussi de montrer les paradoxes des voitures électriques qui demandent de l'électricité.
Oui, et quand on parle de voitures électriques, il faut aussi parler de la façon dont ces voitures sont produites. Donc combien de dégâts cause-t-on pour extraire le lithium qui est nécessaire à ces voitures? C'est pour ça qu'on a fini par filmer une mine de charbon immense, d'où provient l'électricité, car la plupart de notre électricité dans le monde vient du charbon.
Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a le plus choqué dans cette enquête ?
Le moment le plus choquant pour moi, ça a été quand j'ai marché sur des cendres pendant des kilomètres et je savais que 4 jours plus tôt, c'était de la forêt tropicale primaire avec des animaux et de la vie. Et tout ça a été brûlé.
C'était en Indonésie ?
Sumatra, in the area of Jambi,
sur l'île de Sumatra, dans la région de Jambi.
Burning down primary rainforest.
On brûle des forêts pour produire de l'huile de palme. Et puis, en France, vous retrouvez cette huile dans votre supermarché. Et vous pouvez lire qu'elle a été fabriquée avec de l'huile de palme durable. Mais il n'y a pas d'huile de palme durable.
Et sous quel prétexte est-ce qu'on dit que c'est de l'huile de palme durable ?
That's a good question. Actually,
c'est une bonne question. En fait, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire, durable ? J'ai parlé à l'un des plus gros producteurs de viande des États-Unis. Il m'a dit que son entreprise était durable. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous entendez par durable ? Je veux dire, il produit du bœuf pour toute la planète. Et il m'a dit, mon entreprise est durable parce que ça va donner l'opportunité à ma famille sur au moins 3 générations de vivre sur mon ranch. C'est aussi une définition de durable.
Il y a un moment aussi où vous êtes en voiture, vous roulez en fait au milieu des plantations de palmiers pour l'huile de palme. Et là, vous dites, c'est vert. Et Catherine Hartmann, donc voilà, qui enquête beaucoup sur le greenwashing, vous dit, est-ce que toi tu appelles ça de la nature ? Le vert, c'est juste une couleur.
Oui, et c'est quelque chose que l'industrie a compris il y a longtemps. Quand leurs emballages sont de couleur verte, alors on va avoir tendance à penser que le produit à l'intérieur est vert, est écolo. Ou ils y mettent un arbre dessus. Le personnage que je joue dans le documentaire aime, d'une certaine manière, que l'industrie le trahisse, parce qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts. Et c'est pour ça que ces mensonges fonctionnent autant. Tout ça se passe loin, loin de nos yeux, et on peut le mettre de côté.
Le vert, c'est juste une couleur. Voilà. Est-ce que c'est une phrase qu'il faut retenir ou pas, Christian Jacquiot ?
Ben, je crois qu'on l'applique aussi au commerce équitable. Il vient d'être mis au point par le leader, je crois qu'on ne peut pas le citer, mais tout le monde le reconnaîtra bien sûr, du commerce équitable, un procédé qui s'appelle FSP, Fair Trade Sourcing Program, qui veut qu'on peut maintenant ne labelliser, ne certifier équitable qu'un seul ingrédient d'un produit. Je m'explique, vous prenez une tablette de chocolat au lait aux noisettes, et bien dedans il y a du lait, des noisettes bien sûr, du cacao et du sucre. Dès lors que le sucre est équitable, cela permet de mettre le logo de cet opérateur sur la tablette de chocolat. C'est pas tout à fait le même, il y a une différenciation. On dira que c'est équitable pour le sucre, mais le consommateur ne voit que ce logo et finalement croit que c'est équitable. Quand le produit passe à la caisse de l'hypermarché, finalement, eh bien en termes de chiffre d'affaires, on dit que c'est un produit équitable. Et donc le volume d'affaires du commerce équitable croît, mais en vérité, l'équité là-dedans est complètement marginale et ne représente pas grand-chose. Donc,
comment, si là vous donnez un très bon exemple, comment s'y retrouver dans la jungle des labels par exemple, un label éco-emballage, en général, c'est un petit dessin, on se dit, oh bah, c'est très bien, tout est recyclable. Ça veut dire quoi là, un label éco-emballage ?
Alors là, pour le coup, c'est un label quand même officiel et qui correspond vraiment à quelque chose. En revanche, c'est pas parce qu'il est recyclable qu'il est recyclé derrière. Donc après, il faut. C'est vraiment très complexe parce que je crois que ça dépend vraiment de chacun des emballages. Et j'avoue que même moi, le matin, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux acheter une brique de lait en un peu plastifié, une brique en carton ? Parce qu'en fait, derrière, tout dépend d'ailleurs même de la collectivité locale à laquelle vous, dans laquelle vous habitez et qui ne va pas nécessairement avoir derrière la même.
Et c'est pas parce qu'il est recyclable qu'il est écologique, parce que pour recycler, souvent, il faut transporter, chauffer, nettoyer, etc. Donc il y a aussi là une consommation d'énergie qui est énorme, d'eau, etc. Donc finalement, le fait d'être recyclé, c'est pas forcément très profitable pour la planète.
Et c'est pas parce que c'est recyclé ou recyclable que c'est socialement responsable. Parce que là aussi, il faut bien distinguer. On a l'impression finalement qu'on mélange tout et c'est ça qui prête à confusion.
En fait, ce sont d'autres réponses aujourd'hui d'ailleurs. Hein, dans la réduction de l'emballage, on est beaucoup sur les mouvements zéro déchet. Et là, c'est d'essayer de vraiment réduire les emballages.
Sur le plastique, est-ce que c'est vrai que les filières de recyclage du plastique ont fait exploser la consommation d'emballages plastiques parce que ça laissait croire aux citoyens que le plastique peut se recycler à l'infini, à 100%, etc.
Alors, ou pas, parce que certains le disent. C'est qu'on a rarement un emballage fait d'une seule résine. Généralement, il y a plusieurs plastiques qui sont entremêlés, ce qui rend impossible le recyclage. Il y a une deuxième chose, c'est que les Européens et les Américains se sont complètement exonérés du recyclage, qu'ils ont des décennies durant envoyé leurs déchets de plastique, de papier en Chine.
Que la Chine maintenant refuse.
Alors, la Chine ne refuse pas tout. La Chine refuse tout ce qui est en vrac, en quelque sorte. Mais la Chine accepte toujours les plastiques bien triés, résine par résine. Et la Chine a aussi, ses industriels en tout cas, ouvert beaucoup d'usines dans les pays riverains pour pouvoir accepter ce que la Chine n'accepte plus.
Mais je crois que ça pose la question de notre mode de consommation, finalement. Mmh. La grande distribution, par exemple, où il n'y a pas d'intervention humaine, eh bien, a fait que pour protéger les produits, on suremballe, etc. Mmh. Donc finalement, c'est aussi ça qui est important. On achète quelques biscuits, dedans il y a un cellophane, à l'intérieur au-delà, il y a un carton, il y a un film, etc.
Mais est-ce que le discours sur le recyclage, par exemple, hein, ça, c'est un exemple parmi d'autres, ne freine pas paradoxalement la responsabilisation du consommateur pour ne plus consommer de plastique?
Je pense pas, moi. Enfin, je crois pas.
C'est compliqué parce que d'abord, on n'a jamais demandé au consommateur son avis. Mmh. Et on a imposé le plastique comme on lui impose aujourd'hui les OGM et demain on lui imposera les nanomatériaux dans l'alimentation. Le consommateur n'a jamais eu voix au chapitre. Et je pense que si auparavant on lui avait demandé voulez-vous du plastique ou voulez-vous garder la consigne, il aurait sans doute préféré garder la consigne qu'on est en train aujourd'hui de réintroduire.
Aujourd'hui, on n'est vraiment en train de la réintroduire. Ouais. Il y a beaucoup d'initiatives.
La consigne, c'est la bouteille en verre que l'on rapporte chez le marchand et qui vous donne une petite quelques centimes parce que vous avez rapporté la bouteille de verre.
La bouteille, mais aujourd'hui, il y a tout un. Je travaille pour une. Enfin, des étudiants, on travaille pour une start-up qui travaille sur la consigne pour les plats emportés à l'heure du déjeuner. Ça, c'est un impact extrêmement important parce que.
Moi, j'allais dire, je crois qu'on a quand même un pouvoir très important en tant que consommateur. Chaque jour, par notre consommation, nous décidons d'un modèle de société, d'un modèle social, d'un modèle écologique. Quand vous glissez un produit dans votre caddie, que ce soit un kilo de tomate, une jupe ou un produit manufacturé, eh bien vous décidez d'une agriculture productiviste intensive ou au contraire biologique, du travail des enfants dans les sous-sols du tiers-monde ou au contraire de gens correctement rémunérés. Donc je veux dire par là que le geste de consommer, pour moi, c'est un bulletin de vote au quotidien. Et que chaque jour, nous consommons d'une façon ou d'une autre et que derrière, effectivement, il y a une implication. On n'a pas toujours conscience de ça, mais on a un pouvoir tout à fait colossal.
Qu'est-ce que vous pensez de la loi française sur le devoir de vigilance qui oblige maintenant, elle est votée depuis 2 ans, les multinationales à contrôler leurs sous traitant, qui est une loi assez unique dans le monde. Est-ce que ça peut avoir un effet, une obligation de responsabilisation sociale des entreprises?
Tout dépend comment c'est appliqué, effectivement. Mmh. Comme on va voir, moi j'ai travaillé il y a quelques temps pour un journal, donc je ne vais pas citer non plus, mais sur une enquête sur la bio, et je lui demandais, à un des intervenants certificateurs, comment faites-vous pour certifier des produits chinois? Il me disait, nous on ne parle pas chinois, on forme des inspecteurs chinois qui font les contrôles et on doit jouer la confiance parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est tout. Donc à partir de ce moment-là, on dit il faut faire, mais si on ne contrôle pas, si on n'exige pas de voir comment ça se passe, je crois que ça n'a pas beaucoup d'impact.
Est-ce que les prix bas, quand on est consommateur, sont toujours une lanterne rouge? Et à l'inverse, est-ce que des prix élevés peuvent garantir qu'un produit est conforme à ce qui est annoncé, qu'il est meilleur pour l'environnement, meilleur pour les employés, conformément à ce qui est annoncé sur l'emballage, par exemple? Pour vous, Florence Benoît-Moreau?
Non, a priori. Alors bon, évidemment, c'est un peu le prix relatif quand même. Hein, si on voit un prix vraiment extrêmement alléchant et qui prétendrait avoir un cahier des charges incroyable, donc c'est plus le prix par rapport au prix moyen. Mais non, c'est pas pour le coup l'effet inverse, c'est-à-dire afficher un prix relativement élevé et ne pas nécessairement respecter.
Bon, un t-shirt à 2 euros, c'est clair qu'on cautionne le commerce à la Rana Plaza, quoi. Hein, pour citer plus de 1000 morts en 2013 au Bangladesh, dans une usine qui n'était pas du tout conforme aux normes de sécurité, etc. Ça, d'accord. Mais ensuite, comment on fait quand même
Ensuite, on n'en sait rien. C'est la question que vous posez, c'est la question de la répartition de la richesse tout au long des filières. Et dans la mesure où il y a des acteurs, effectivement, du commerce équitable qui exigent une répartition juste du prix tout au long de la filière, là, on a une garantie. Mais il y en a d'autres qui ne garantissent qu'un prix à la production et pas autre chose. Donc la question est de savoir, c'est comment tout au long de la filière, pour ceux qui produisent, ceux qui cueillent, ceux qui fabriquent, ceux qui transforment, le prix est réparti. Ça, aujourd'hui, il y a très très peu d'acteurs du commerce équitable qui nous le communiquent, qui nous le disent. Et souvent, les gens se limitent, comme vous le disiez au tout début de l'émission, à un slogan. On associe deux mot commerce équitable, on se dit c'est merveilleux, c'est formidable, et finalement il n'y a pas grand chose derrière.
Valérie Laramène-Tannenberg, on a l'impression qu'on est de mieux en mieux informé, il y a de plus en plus d'enquêtes, notamment dans les médias, des documentaires très, très fouillés qui informent, et en même temps, parallèlement, paradoxalement, il y a de plus en plus de produits, de plus en plus de labels, de plus en plus d'offres dans le commerce. Donc finalement, en tant que consommateur, on a le sentiment qu'on est de plus en plus informé, mais on y voit de moins en moins clair.
C'est vrai, et ça pose, je pense, directement le problème de la régulation. On a vu de plus en plus les États confier la régulation aux industriels, ce qui pose quand même un problème assez hallucinant. Et il n'y a que dans les secteurs vitaux pour la société, je pense à l'énergie et à l'électricité en particulier, où il y a des régulateurs puissants en France et en Europe. Si on avait ce même type d'institution pour l'alimentation, pour pourquoi pas la consommation, l'emballage, je pense qu'on consommerait différemment et que le consommateur n'aurait pas à s'investir massivement dans les réseaux sociaux.
À devenir lui-même enquêteur, c'est ça, dans les rayons des supermarchés.
Je nuance peut-être un peu, parce que là, il y a quand même une prise de conscience qui est importante, et à l'échelle de la communauté européenne, là, récemment, il y a eu une loi qui a été votée là, pour l'interdiction notamment des pailles ou des plastiques qui sont mono-usage, donc il a fallu définir cela, etc. Et là, on est sur un horizon assez proche, et je sais qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises, hein, de fast-food, de restauration rapide, etc., qui sont vraiment du coup en train d'accélérer un processus qu'ils avaient en partie enclenché, mais ils vont vraiment l'accélérer, et ça, c'est le volet un petit peu peut-être positif, mais c'est réel quand même.
Il y a tout le reste, quoi. C'est ça le problème.
Ouais.
C'est
oui.
Tout le reste.
Ah ben, c'est progressif quelque part.
C'est sûr, il y a encore du travail.
Bien ferme, on est en transition aussi.
Pour les entreprises, pour les États et pour les consommateurs. Ouais. Merci à vous tous, Valérie Laramé de Tannenberg, Agir pour le climat entre éthique et profit, publié chez Buchet-Chastel, Christian Jacquiose est publié Les coulisses du commerce équitable chez Mille et Une Nuits, et Florence Benoît Moreau de La publicité verte au greenwashing, 50 nuances de vert entre vice et vertu. C'est à retrouver dans L'état des entreprises aux éditions La Découverte. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, à découvrir aussi bien sûr en podcast Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci.
À vous.
Bonne journée.
Love ain't no gamble, love ain't no toy. There's a beautiful thing between girls and boys. Love is a treasure so very hard to find. Love is a question, I'm only happy in your mind. No amor é só curtir. Vem comigo dançar e sentir. A vibe envolvente sem limites. Together fly and be happy. Don't stop, let the wind. We need to send the loving. With the Max and the Fixie. We give love for music. You know, we give love for music.
C'est Winston, McAnuff et Pongo chez 7 milliards de voisins. Tout de suite, la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes aussi directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et dans cette série de chroniques consacrées au sommeil des enfants, on aborde le deuxième volet. Est-ce qu'on berce les enfants de la même manière de par le monde? Pour les faire dormir, bien sûr. En tout cas, dans l'espoir de les endormir.
Alors, figurez-vous Emmanuel que cette question a été posée dans un nombre incalculable de recherches internationales qu'on appelle transculturelles, puisqu'on c'est dans différents pays qu'on compare également, et de savoir, après observation, comparaison, comment on faisait avec les enfants pour les endormir, en particulier pour les bercer. Alors il y a un grand nom, hein, c'est Hélène Stork qui l'a fait en Inde et dans différents pays du Maghreb et d'Afrique. D'abord, elle a constaté que partout, faisait des actions pour à la fois pour endormir l'enfant, à la fois en chantant et en bougeant, ça c'est, mais avec des manières différentes de faire, et que cet acte-là de bercer était un acte qui était considéré vraiment comme un acte de protection de l'enfant et qui appartenait à la fonction maternelle, mais que tous ceux qui s'occupaient des enfants pouvaient faire également. Par contre, ce qui est très différent, ce sont les modalités qui peuvent être vraiment presque opposées d'un endroit à l'autre et parfois dans des endroits assez proches. Et en général, d'ailleurs, les manières des autres nous choquent et nous scandalisent. Nous, on berce les enfants en diminuant le rythme, en baissant la voix, en arrêtant l'aspirateur, en chantant des chansons douces et dans un endroit calme et séparé de la vie quotidienne. Dans d'autres endroits, au contraire, on fait exactement le contraire. C'est-à-dire, on le voit dans les films d'Ellen Stork, on endort les enfants avec un rythme saccadé, rapide, enjoué. On les stimule beaucoup au niveau de l'oreille interne, en rythme, au milieu des activités quotidiennes, des bruits de la vie et des cris de tout le monde.
Vous disiez dans une précédente chronique, Marie-Rose Moreau, que le bébé a besoin de calme pour s'endormir. Donc, comment est-ce qu'il peut s'endormir avec ce rythme endiablé dans d'autres cultures?
Oui, alors le bébé, il a besoin de se calmer, il a besoin de se rassurer, on disait dans la chronique précédente. Et effectivement, le calme et la réassurance, elle apparaît lorsque il y a un accordage, c'est-à-dire le rythme est le même entre le contexte et l'enfant. Il y a une adéquation, cette adéquation entre ce qu'on fait à l'enfant et ce qui se passe autour, c'est cette adéquation qui procure le sentiment de sécurité partagé avec son entourage. Mais on sait bien qu'en fonction des cultures, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes manières de faire. Et donc, nous, on fait doucement. Parfois, donc, dans d'autres endroits, on fait de manière beaucoup plus dynamique. Et nous, ça nous paraît violent. On réagit comme cela et on infère qu'il y a une violence dans le geste de l'autre. En réalité, et c'est ce qu'elle Ellen Stork d'ailleurs apprenait aussi à faire à ses étudiants et à ceux qui regardaient ses films. Je vous conseille d'ailleurs de regarder ces magnifiques films sur les berceuses recueillis dans plein de familles en France, en Inde, et au Maghreb et en Asie. Donc, d'observer comment on chante, la beauté du geste, mais en même temps l'efficacité de ce geste, qui est un geste qui est adapté en adéquation avec le contexte et avec
culture.
Le lieu où on vit.
Ouais. Voilà, pour dormir les bébés, donc en rythme ou au calme, ça dépend de la culture. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau, et effectivement on a noté tous les liens pour retrouver les sites et les ouvrages d'Hélène Stork, et également la revue transculturelle L'Autre. Merci Marie-Rose Moreau, prochain épisode toujours sur le sommeil des enfants. Les enfants doivent-ils dormir dans leur propre chambre ou peuvent-ils dormir dans la chambre des parents, dans le lit des parents, et jusqu'à quand?
Alors, on dit quoi?
Et Diara Ndiaye vient d'apparaître chez 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Cette semaine, alors on dit quoi? Vous parlez du climat, c'est le sujet qui intéresse tous les jeunes de la planète aujourd'hui.
Absolument, vous avez raison Emmanuel, les questions de changement climatique font beaucoup réagir nos auditeurs. Avancée du désert, inondations, érosion par exemple, sont des phénomènes palpables dans le monde entier. Ces situations se présentent comme une préoccupation mondiale. Nous irons à N'Djamena, au Tchad, où nous verrons quelle est l'implication de la jeunesse concernant ces phénomènes.
L'impact du changement climatique d'abord sur les enfants du Sahel et précisément du Tchad, ça se manifeste de plusieurs manières. Il y a sous le cadre de la sécurité, par exemple les enfants du Bol, le lac Tchad. Avec le réchauffement climatique, le niveau d'eau diminue et ceci laisse un passage pour les Boko Haram. Et ça touche vraiment les enfants parce que le Sahel souffre vraiment des actions terroristes. Et aussi sous le cadre de l'alimentation et aussi sous le cadre de la biodiversité. Parce que là-bas au lac Tchad, il y a une variété de bœufs très rare appelée le bœuf courri. Et c'est de ce bœuf que les habitants du Bol tirent le lait pour nourrir avec les enfants. Mais plus le réchauffement climatique avance, ces bœufs disparaissent en fait.
Génération consciente, cette jeunesse africaine, hein, avec le climat, ils ont bien compris les problèmes qui apparaissent sur le continent africain. Et donc vous en parlez.
On en parle samedi à 11h10, temps universel sur RFI.
Merci Diara, on sera à l'écoute.
Et quant à nous, 7 milliards de voisins, on revient lundi. Bonne fête de Pâques aux voisins qui célèbrent. Et moi, je vous propose de réécouter notre émission lundi sur les séries télévisées. Pourquoi sommes-nous accros aux séries ? Merci à toute l'équipe. Sigrid Azeroual, Delphine de Diamounous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que pour retrouver 7 milliards de voisins en podcast ou la chronique parents, enfants d'ici et d'ailleurs, eh bien, il suffit de vous abonner à une plateforme de téléchargement Castbox, iTunes, Google Podcast. Et bien sûr, vous nous envoyez aussi vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Encore une fois, merci à vous tous, les voisins et les voisines, de votre fidélité du lundi au vendredi sur RFI. Très bonne fin de semaine.